Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Comme vous le voyez, j'étais en train de chantonner sur la musique d'entrée.
Et je n'ai pas attendu ton cue pour ouvrir ton micro. Elle chante, c'est un bon moment, allons-y.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté qui est avec nous, qui nous fait la technique et qui va proposer aujourd'hui sa chronique Moment Schadenfreude.
Eh oui.
Oh yeah. Bon, alors on va voir ce que c'est. On a parlé des prix Darwin. Tu vas nous aiguiller sur peut-être une chose un petit peu différente, mais on en parle dans un instant. Et puis, en deuxième partie, on va recevoir Frédéric Jani qui va nous parler de... Est-ce que vous connaissez ce que c'est que Indiscrétion publique qui est présentée par le Théâtre du Ricochet? Eh bien, vous en apprendrez mieux dans la prochaine demi-heure. Donc, restez avec nous. Et pour l'instant... On va partir en chanson avec Hervé qui nous chante « Monde meilleur ». Alors Jean-Sébastien Laliberté, est-ce que le monde va être meilleur?
Oh, je le souhaite, je le souhaite dans cette chronique Schadenfreude qui nous donne à rire de choses qu'on ne devrait peut-être pas rire en temps normal.
Mais je ne sais pas si le rire il est franc et net, si c'est arrivé certaines fois ou s'il n'est pas nerveux parce que ça, la bêtise humaine est telle que ça devient presque, ça en est presque grossier.
Oui, d'où l'adage, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Eh bien, un fidèle de cette émission, un abonné de notre émission nous m'a fait part d'une suggestion, que dis-je, une demande spéciale, même une mission, et je dirais même un challenge, celui de parler des prix Ig Nobel, les prix ignobles.
Qu'est-ce que c'est?
C'est en référence aux prix Nobel, les prix Nobel où on souligne la crème de la crème. Eh bien, les prix Ig Nobel, les prix ignobles, ce sont une remise de prix sur lequel on souligne 10 recherches scientifiques qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir. Et ça, ça a lieu depuis le début des années 90.
D'accord.
Alors, je vous offre aujourd'hui une première petite rétrospective.
C'est la première fois que j'en entends parler.
Et moi donc, je remercie ce fidèle auditeur pour sa suggestion. Voici d'abord quelques exemples des prix Ig Nobel en 1991 en biologie. Robert Clark Graham, le sélectionneur de graines et prophète de la théorie de la propagation pour le développement d'une banque de choix de semences, une banque de sperme qui n'accepte que les prix Nobel et les champions olympiques.
Ah, j'ai été... ça me dit quelque chose, ça.
Donc vraiment, quand on veut avoir la crème de la crème, ben, ce monsieur-là a trouvé que c'était une bonne occasion. Et vaut mieux en rire qu'en pleurer, le prix de la paix pour cette année-là à Edward Teller, le père de la bombe atomique. Sinon, en 92, en archéologie, on souligne le fort travail des éclaireuses et éclaireurs de France pour avoir effacé les peintures rupestres de la grotte de Mérières supérieure. Et oui, donc, pour avoir nettoyé ce qu'ils croyaient être des graffitis, mais qui en réalité étaient des fresques qui dataient plusieurs siècles.
Quelle horreur! Écoutez, excuse-moi, mais là, je m'attarde un instant, c'est monstrueux.
C'est monstrueux. Ben, ça partait à la base d'une bonne intention, mais...
Alors là, Dieu bénisse, donnons de la culture aux enfants, sapristi, et aux adultes.
Aux adultes qui supervisaient, surtout.
Un peu de culture, mince, apprends où tu vas, ce qu'il y a et ce qui se passe, ça me paraît invraisemblable.
Et pourtant. En médecine, je vous apporte au Shiseido Research Center de Yokohama et je vous ferai fi des 6 médecins qui ont fait le travail précurseur sur l'élucidation des composants chimiques responsables des mauvaises odeurs des pieds. Et particulièrement pour avoir conclu que les personnes pensant puer des pieds doivent puer des pieds et celles qui pensent qu'elles ne puent pas, ne puent pas. Ça nous a pris 6 médecins, 6 chercheurs pour pouvoir venir à cette conclusion-là.
Ça a surtout coûté beaucoup d'argent aux contribuables.
Oui. En 1993, une histoire que je ressavoure encore une fois. Aux Philippines, le prix Ig Nobel de la paix est remis à la compagnie Pepsi-Cola pour avoir sponsorisé un concours pour faire un millionnaire. Et puis on se dit souvent dans ces concours-là, ça doit être arrangé avec le gars des vues. Il n'y a personne qui va gagner. Et c'était peut-être ce qu'ils avaient comme plan. Mais suite à une erreur à quelque part dans la chaîne de montage, le numéro qui a remporté n'a pas fait qu'un seul gagnant, qu'un seul millionnaire, mais plutôt 800 000 candidats vainqueurs. Et ce n'était apparemment pas dans les plans de Pepsi-Cola de donner 800 milliards de dollars en prix. Ça a fait évidemment il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup de violence parce que les gens, avec raison, j'ai gagné. Non, c'est moi qui ai gagné, on est 800 000 et puis finalement, non, personne n'a gagné. Je pense que l'image de Pepsi-Cola en a pris un coup dans les Philippines pendant cette année-là. Allons du côté de l'absurde. En mathématiques, un homme de Caroline du Sud, un voyant en statistiques, a reçu le prix pour avoir calculé les chances exactes de 710 trilliards, 609 trillions, 175 milliards, 188 millions, 282 000 chances contre 1 que Mikhail Gorbatchev soit l'antichrist. On paye les gens vraiment pour tout et pour rien. Remise de prix conjoint de cette même année.
Si vous cherchez du travail, sachez qu'il y a des boulots qui sont...
En technologie là. Visionnaire décernée conjointement à Jay Schiffman au Michigan, brillant créateur de l'autovision, un dispositif projetant des images sur le pare-brise, rendant donc possible de conduire son automobile tout en visionnant la télévision simultanément sur son pare-brise, et à la législature de l'État du Michigan pour avoir rendu l'invention légale. On espère que depuis, ils ont revu ça. Mais vraiment, il faut être accro à la télé.
Non, mais je sais pas, moi. Est-ce que les personnes qui acceptent ça sont des personnes qui vivent dans la vraie vie? Je sais pas, moi, avec tout ce qui se passe d'habitude, parce que ça paraît drôle. Tu nous raconterais une blague que tu as créée, elle serait super drôle. Mais ce serait qu'une blague.
Oui.
Là, c'est une réalité. C'est ça qui me fait peur.
Oui, la réalité parfois dépasse la fiction.
Ah, mais
c'est le cas.
Un peu trop souvent, même.
Le prix de la paix en 1994 a été remis à John Hagelin du Maharishi University of Management et à l'Institut de sciences, technologies et politiques publiques qui a promu la pensée pacifique par sa conclusion expérimentale que 4000 méditants entraînés pourraient causer une baisse de 18% de la criminalité à Washington. Donc si on se met à 4000 pour faire de la méditation, le crime va baisser.
Ben oui.
Ça frappe un peu l'imaginaire.
Si ça serait bien. Ça serait bien. Mais dit-on tout de suite. Enfin non, il y a l'émission, mais après.
Un qui a reçu le prix et puis que par la suite a été enlevé de la liste parce qu'apparemment qu'il y avait eu erreur dans les rapports. Ça a été remis à l'époque à l'Institut météorologique du Japon pour une étude de 7 ans qui tentait à voir s'il y avait un lien entre les tremblements de terre et les poissons-chats qui battent de leur queue. Donc, quand
si
on...
Le poisson-chat crée le tremblement de terre?
Oui, on parle littéralement de l'effet papillon.
L'effet papillon, oui.
L'effet papillon, mais
qui
dans
existe.
L'eau. Oui, mais là, il y avait, semble-t-il, une étude de 7 ans pour voir la causalité entre les deux.
Et ça a donné quoi comme résultat au bout des 7 ans?
Eh bien, je ne peux pas vous le dire. Mais ils n'ont pas pu recevoir le prix parce que semble-t-il qu'il y avait anguille sous roche.
Pas anguille, il n'y avait pas son chat.
Et je vais prendre un petit peu de temps avant qu'on prenne une petite pause musicale. Je vous parle du récipiendaire du prix de la médecine en 1994. Dans les années 80, il y a eu une vague de popularité pour les traitements de morsures de serpents venimeux, traitements à la base d'électrochocs. Bien que selon certains...
Un électrochoc pour les piqueurs serpents.
Vraiment, on se fait mordre par un serpent venimeux.
Et après, on prend un électrochoc.
Électrochoc pour soit neutraliser le venin ou le faire expulser de son corps. Bref, ce fut une technique qui a connu une certaine popularité. Et bien que selon certains, c'était possible de soigner la victime, les analyses subséquentes et les tests qui ont été pratiqués ont révélé que ce n'était vraiment, mais vraiment pas la meilleure des méthodes et que le traitement échouait très, très majoritairement. Donc, si vous n'avez qu'une chose à retenir et que vous n'écoutez pas le reste de cette chronique, si jamais vous faites mordre par un serpent, les électrochocs, ce n'est pas la meilleure des solutions. Alors donc, c'était déjà une idée qui était répandue à l'époque, un peu comme le mythe de si on se fait mordre par une méduse, l'urine permettrait de stopper la brûlure, et je précise au passage, sans l'avoir testé moi-même, que dans le meilleur des cas, ça ne fera rien, dans le pire des cas, ça peut empirer l'infection, les morsures de méduse, donc... Tenez-vous loin des méduses, fin de la parenthèse. Et on arrive finalement, après ce long préambule, en 1991, alors qu'un ancien Marine se fait mordre par son serpent à sonnette. Quel bon choix d'animal domestique. Et son réflexe est le suivant, se précipiter chez son voisin et lui demander de faire tourner son moteur de voiture très rapidement. Non pas pour le conduire à l'hôpital. Notre homme, que nous appellerons le patient X, insiste pour que son voisin... avec qui il devait avoir une très bonne relation, lui installe dans la bouche un câble attaché à une bougie d'allumage de son auto, ce qu'on appelle communément une spark plug, et qu'il fasse tourner le moteur de l'automobile à 3000 tours minute pendant 5 minutes.
Non, mais ça va pas.
Résultat, son corps noirci et boursouflé fut conduit par hélicoptère à l'hôpital, où sa vie fut sauvée par deux médecins. Donc, il n'est pas mort de ce traitement.
D'accord.
Les médecins ont par la suite publié un rapport médical intitulé « Le non-fonctionnement des électrochocs contre le venin des serpents à sonnette ». Et on rappelle, parce qu'on doit le rappeler...
Excusez-moi d'en rire, mais...
Pour traiter les morsures, les hôpitaux administrent généralement une injection d'antivenin qui a de bien meilleures chances de vous sauver la vie.
Au secours. Alors, écoutons s'il vous plaît Damien Robitaille qui nous chante Électrique. Une lumière s'est allumée et
électrique, elle est arrivée. Son courant me rejoint, je ne suis plus dans le noir. Comme une invention d'Edison, tous mes appareils fonctionnent. Depuis que j'ai ma belle, j'ai plus besoin de chandelle. Branché dans sa prise avec mon fil conducteur, je commence à vibrer, elle rallume mon cœur, elle est électrique. Je respire des éclairs, quand on est ensemble, il y a de la statique dans l'air, elle est électrique. Elle est électrique. Madame Polarité, reste donc à mes côtés. Je me réchauffe, je veux pas vivre sans toi. Sans toi pour me charger, rien dans ma vie ne pourrait marcher. Si tu me quittes, j'aurai une panne érotique. Ces lumières commencent à refroidir. Plus elles s'éloignent, plus elles m'attirent. Pouvoir électrique. Faire attention pour me faire électrocuter. Elle est électrique. Elle est électrique. Elle n'est plus éprise. On se divise. Je dois me débrancher de sa prise. Son courant est parti. Je suis seul dans le noir. Je n'ai plus l'habitude de cette obscure solitude. Alors j'allume ma chandelle et je veux penser à elle. J'allume ma chandelle, je veux penser à elle. J'allume ma chandelle, je veux penser à elle. Une femme électrique. Tous les hommes veulent une génératrice avec un beau visage et des belles cuisses. Une femme électrique. Et l'électrique. Oh, mama, c'est pas tabaco, pas génanata, titita. Oh, titita, femme électrique.
Alors? Alors, une autre, une. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, si jamais vous venez d'arriver, nous avons donc Jean-Sébastien Laliberté qui nous raconte, selon sa bonne habitude, avec une voix fantastique, des horreurs.
Si jamais vous vous cherchez un emploi et que vous ne savez pas quoi faire, je vous donne des pistes de choses. Ben, peut-être pas exactement les mêmes parce que ça a déjà été fait. Mais dans le cadre de la remise de prix Ig Nobel en 1995 en psychologie, trois hommes de l'université de Keio au Japon pour avoir appris à des pigeons à faire la différence entre des tableaux de Picasso et ceux de Monet.
C'est excellent, mais pour arriver à quel résultat pour prouver que l'oiseau est intelligent? Ben certes, il est plus intelligent que certains individus, il n'y a pas de souci.
Je ne sais pas combien de temps ils ont pris pour pouvoir arriver à ça, mais, et ni pourquoi ils ont voulu faire ça. Mais
oui, parce que c'est le pourquoi, que l'intelligence de l'oiseau soit puisse se placer là-dedans, là, j'ai aucun doute, ça me fait pas rire. Mais par contre, pourquoi? Qu'est-ce que ça nous amène?
Ça nous donne un bon sujet de chronique.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est encore une fois, et le paquet de dépenses, depuis qu'on fait cette chronique, Jean-Sébastien, je me rends compte, le paquet de dépenses d'argent qui est déployé quand on dit « Ah mais non, mais il n'y en a pas assez de sous pour faire ça. » Mais putain, mais aider les artistes, aider les gens qui cherchent à travailler, vous pouvez aider des centaines de personnes au lieu de payer pour des choses comme ça. Mais une recherche qui ne sert à rien.
Et toujours dans le cadre des sujets qui ne servent à rien, ou plutôt qui ne devraient servir à rien, en 1996, le prix en santé publique est remis à Ellen Kleist de Nuuk au Groenland et Harald Moy d'Oslo en Norvège pour leur étude médicale sur la transmission de la gonorrhée par les poupées gonflables. Quand on dit qu'il y a de l'argent qui se perd... Tiens, allons voir du domaine, dans le domaine de la biodiversité.
j'ai rien à dire là-dessus parce que vraiment,
on est peut-être mieux justement de ne pas faire de commentaires. En biodiversité, le prix a été remis en 1996 toujours à Shunosuke Okamura du laboratoire Okamura des fossiles à Nagoya au Japon pour avoir découvert les fossiles de dinosaures, de chevaux, de dragons, de princesses, de licornes et de plusieurs autres milliers de mini-espèces éteintes, mesurant toutes moins d'un quart de millimètre de longueur. Donc avec un microscope, il a trouvé des formes de vie minuscules qui, semble-t-il, ont déjà existé sur la planète.
Pour que les gens qui nous écoutent et qui ça fait rire et qui pourraient se dire « Oh oui, mais nous sommes en 1990, depuis 30 années ont passé, on a fait des avancées. » J'en suis pas si sûr.
On a fait des reculs.
Donc, si tu as des exemples qui sont plus récents dans le temps ou une prochaine fois, ça sera drôle à avoir aussi parce que ne restez pas sur le fait que c'était dans les années 90 parce qu'à mon avis, vous pourriez être très, très surpris.
Et dans les années 90, j'en trouve ici et là qui sont savoureuse et aussitôt qu'on arrive au tournant des années 2000, j'avais de la difficulté à en sélectionner. Il y a des fois, je les prenais toutes et vous pourrez voir, possiblement, je ne pense pas avoir le temps de toutes les nommer aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, on ira voir ce qui se passe dans la décennie suivante. En littérature, il y a les éditeurs du journal Social Text qui ont reçu le prix pour avoir publié des recherches qu'ils ne comprenaient pas, dont l'auteur disait qu'il ne voulait rien dire et qui disait que la réalité n'existait pas. Et pour mettre ça en contexte, l'auteur ou les auteurs ont choisi d'écrire un texte scientifique rempli de longues phrases creuses avec des mots qui ne veulent rien dire. Et les personnes ont réussi à se faire publier dans le journal, ce qui prouvait que la sélection d'articles scientifiques, parfois, n'était pas parfaite.
Alors ça, par contre, c'est excellent.
Ça montre qu'il y a des lacunes.
Mais ça, par contre, c'est excellent. Ça montre qu'il n'y a aucune... Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a aucune relecture qui est faite. Il n'y a rien... Enfin, non, c'est extraordinaire. Bon, enfin, bref.
Peut-être deux petites dernières rapidement. Oui, 1997, allez. En économie, et ça va sûrement dire de quoi à plusieurs personnes, prix remis à Akiro Yokai de l'entreprise Wiz à Shiba. Et on est au Japon, donc, pour avoir créé le Tamagotchi. Cette invention qui a fait perdre des millions d'heures de travail passées à soigner des animaux de compagnie virtuelle. Est-ce que ça te dit quelque chose, les Tamagotchi, Arlette?
Ah non, pas du tout.
C'était des petits... des micro-ordinateurs qui étaient gros comme un paquet d'allumettes environ. Et c'est un petit animal qui vivait à l'intérieur de ça. Et il fallait à toute heure du jour de la journée peser sur des petits boutons pour le nourrir, pour le laver, pour lui changer la couche, pour le dormir, pour lui chanter une chanson. Donc, c'était vraiment s'occuper d'un être vivant, mais sur ordinateur. Et il y a eu une folie, justement, au
milieu
des années
80. Mais c'était pour les enfants?
À la base, mais pas uniquement pour les enfants. Beaucoup d'adultes ont trippé là-dessus aussi. Donc, une dernière. En météorologie, un homme de l'Université d'Albanie, pour son rapport, et je ne vous donnerai que le titre, « Le plumage des poulets comme mesure de la vitesse des vents des tornades ». Vraiment, je crois que je vais me recycler.
Je
vais devenir chercheur.
Je ne sais pas quoi dire.
Allons donc en musique.
J'y arrive, mais oui, alors avec Dave Armaud qui nous chante Pete Caribou.
Pete Caribou que je souligne, que j'offre à la personne qui m'a suggéré les prix Nobel, un certain Mathieu Tessier.
Parti un bon matin de Gaspé vers Saint-Anne, 15 kilomètres plus loin. Le moteur qui rend l'âme. Le malheur est partout sur le chemin du rendez-vous. Pete Caribou vient boire un coup. Condamné aux abords d'une route brumeuse, les deux pieds dans le dehors, à peine une remorqueuse. Le malheur est partout sur le chemin du rendez-vous. Pete Caribou vient boire un coup. Pogne pas, on est comme plus dans le monde. Eric se lève le bras, c'est la ruée vers l'ombre.
pleurer partout sur le chemin du rendez-vous. Pit Caribou, viens boire un coup. Trois heures, les genoux dans le front, sur une route un peu croche. On dirait que l'asphalte tient juste avec de la broche. Le malheur est partout sur le chemin du rendez-vous. Pit Caribou, viens boire un coup. Le chemin du rendez-vous, Pit Caribou, viens boire un coup. Le fleuve est passé large pour nier notre peine. Mets la bière dans une barge, quel bon vent nous ramène. Malheur est partout sur le chemin du rendez-vous, Pit Caribou, viens boire un coup. Vers Saint-Anne, 1000 kilomètres plus loin, le bon Dieu nous condamne. Le malheur est partout sur le chemin du rendez-vous. Pit Caribou, viens boire un coup. Le malheur est partout sur le chemin du rendez-vous. Pit Caribou, viens boire un coup. Le malheur est partout sur le chemin du rendez-vous. Pit Caribou, viens boire un coup.
Bah oui, je viens boire un coup quand tu veux, Dave Armaud. Et vous aussi. Donc, restez avec nous. Dans un instant, on parle avec Frédéric Janier. On va parler d'indiscrétion publique et du théâtre du Ricochet. Alors, à tout de suite.
C'est les Faramineux avec votre animatrice Arlette Farah.
Bien sûr, tu t'es encore trompé et tu redémarres à zéro comme tu l'as déjà fait 100 fois. Bien sûr, tu cherches à t'accrocher, mais plus le temps passe et moins tu trouves justement t'accrocher à quoi. Bien sûr qu'avant t'avais des rêves et la croix que t'as fait dessus, tu l'amènes à ton Golgotha. Et bien sûr, tous les jours, t'en crèves de compromis, en frustration, tu t'es mis dans un sale état. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. C'est un truc que t'oublies, mais plus tu prends de l'âge, quand tu passes plus entre les gouttes, faut juste danser sous la pluie. Bien sûr, ta moitié s'est barrée. T'es tout seul avec l'impression que le meilleur est derrière toi. Bien sûr, l'amour ça fait pleurer. Et une fois la rose effeuillée, on a des épines plein les doigts. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. C'est un truc que t'oublies, mais plus tu prends de l'âge.
passe plus entre les gouttes. Faut juste danser sous la pluie. C'est un deuil constant, les larmes ont peu de temps pour sécher. Bien sûr, ce qui tue pas rend plus fort. Tu partiras donc en dernier, tout vieux, tout seul et tout fripé. Je peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. Je peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes. Danser sous la pluie.
Alors, dansons sous la pluie, c'était les fils du facteur. Danser sous la pluie. Maintenant, on parle avec Frédéric Genry. Bonjour Frédéric.
Bonjour Annette Farah.
Bienvenue.
Merci.
Bienvenue. Donc, on va parler du théâtre Le Ricochet et on va surtout parler d'indiscrétion publique. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore indiscrétion publique, qu'est-ce que c'est?
C'est assez simple à présenter, mais il faut y assister. Alors, c'est un parcours théâtral urbain là, qui est gratuit, qui se déploie dans les parcs de la ville de Montréal, oui. Où on assiste à 7 courtes pièces qui sont attrapées au vol là, par les spectateurs, puis on est guidé d'une station à l'autre, c'est-à-dire d'un banc à l'autre, parce que ça se produit sur un banc de parc. Et c'est signé par 7 auteurs québécois différents, des textes inédits qui traitent d'enjeux sociopolitiques, d'enjeux actuels. Cette année, entre autres, on a l'équité salariale, la solitude, le dysmorphisme, la charge.
On va y aller doucement parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le dysmorphisme?
Ah, bonne question. Alors, le dysmorphisme, c'est cette tendance qu'il y a eu il y a quelques années et qui est encore d'actualité. Ça vient, entre autres, des filtres Instagram, où les jeunes se mettent des filtres Instagram.
Ah oui, oui, on change photo. Notre tête, on se rend beau quand on l'est pas. Enfin, exactement. En tout cas mieux.
Exactement. Et ça vient d'une étude universitaire qui a fait des recherches là-dessus et on a réalisé que les ados, ou du moins les gens sur Instagram, cherchaient toujours un peu le même visage, c'est-à-dire la même morphologie du visage, les grands yeux, le petit nez, la grande bouche, les grosses lèvres. C'est un petit peu le même visage à chaque fois qu'on recherche à reproduire. C'est ce qu'on appelle un peu le dysmorphisme, c'est-à-dire qu'on cherche à reproduire une image de soi qui n'est pas la nôtre. Et bon, jusqu'à maintenant, ça allait bien puisque c'était des filtres Instagram, mais la tendance aux États-Unis est plutôt alarmante. Présentement, les jeunes cherchent à se faire des chirurgies esthétiques pour ressembler à ce fameux filtre.
Qui ressemble au filtre. C'est horrible. Voilà. Alors là, dans l'histoire, c'est ce que je lisais, donc... c'est une ado qui rencontre une influenceuse et qui lui fait part de son désir d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Mais ça peut aller très loin parce qu'on peut faire n'importe quoi avec ses filtres, mais on peut pas faire n'importe quoi sur un visage.
Exact. Mais il y a aussi la tendance qui veut qu'on peut falsifier une preuve d'identité pour avoir 18 ans. Et certains ados de 16 ans ont réussi à se faire des chirurgies sans le consentement de leurs parents parce que, bon, falsification de preuve d'identité. Donc, c'est un petit peu le cas dans la pièce ici, au sens où l'ado en question s'est fait faire une chirurgie qui est non permanente, qui a falsifié sa preuve d'identité, et puis juste pour voir si ça lui plaisait ou non, et puis ensuite, son but est de passer à la vraie chirurgie.
Ah oui, c'est quand même complètement fou. C'est un sujet fort. Combien de temps dure la scène?
Chaque courte pièce dure entre 5 et 10 minutes environ.
D'accord.
Des pièces qui sont plus longues, des pièces qui sont plus courtes, mais c'est environ 10 minutes par pièce.
Oui. En fait, moi, j'en ai déjà vu en année précédente et j'aime beaucoup. Donc, vraiment, c'est vraiment excellent. Donc, parlons un petit peu de chaque pièce. Mm-hmm. La quatrième langue, c'est deux mères qui débattent de l'utilité d'apprendre plusieurs langues dès la petite enfance. Alors là, moi j'écoute ça. Moi je suis partante d'avoir plusieurs langues dès la petite enfance.
Ah, vous allez avoir des sujets de débat à ce moment-là. Je veux rappeler quand même à Arlette Farah que les inscriptions publiques, c'est du théâtre d'été. Même s'il y a des sujets très sérieux, ça reste quand même très ludique et humoristique. Oui. Je vous ai parlé de dysmorphisme. On s'entend que l'auteur a fait, je veux pas vous vendre les punchs, mais fait des pieds et des mains pour rendre la chose très humoristique.
Ben oui, j'en doute pas, mais c'est parce que en ayant demandé l'explication de ce que ça voulait dire... J'allais plus loin que ce qui va être que la pièce qui va être débattue là sur les bancs. C'était dans le côté assez impressionnant de ce que ça peut faire, ce genre de choses. Mais c'était aller plus loin que ce qui est offert. Je suis bien d'accord avec ça.
Donc, les enjeux sont assez forts, oui. La quatrième langue, effectivement, il y a deux points de vue qui s'opposent et on a remarqué aussi qu'il y a différentes études sur le sujet. Donc, comme vous, il y a des gens qui pensent que dès la petite enfance, c'est le moment d'apprendre plusieurs langues à l'enfant puisqu'il est son cerveau est en formation, il est apte à apprendre beaucoup de choses rapidement. Mais d'autres gens considèrent que apprendre une première langue très bien, c'est important dans la petite enfance, ne serait-ce que pour la cohérence. Puis ensuite, plus vieux, on peut se pencher sur l'apprentissage de plusieurs langues. Donc, il y a ce débat-là qui recourt dans la quatrième langue.
Alors là, dans mon débat, et c'est juste avec vous que je le fais, c'est juste qu'il me semble, de mon point de vue, que pour les enfants, ça leur fait accepter la différence tout de suite. Voilà. L'autre différence, celle qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Voilà.
Vous savez, à la fin du spectacle, l'indiscrétion publique, il y a toujours une discussion avec les spectateurs. On évoque les enjeux qui ont eu cours. Puis c'est toujours intéressant de voir les points de vue des gens. Parce que je connais plusieurs personnes qui seraient en désaccord avec vous là-dessus. Et ça serait intéressant justement d'en débattre à la fin de la pièce.
Oui, ben j'irai. Moi, je suis dans le quartier de Ville-Marie. Et je sais qu'il y a un parc pas loin dans lequel ça va y être. On va en parler tout à l'heure aussi.
Malheureusement,
des endroits.
Moi, je ne peux pas publiquement vous donner les dates compte tenu des mesures sanitaires, c'est la santé publique qui nous oblige. Comme c'est gratuit, on n'a pas de billet, donc il n'y a pas de place réservée. On peut pas, malheureusement, publiquement. Mais je sais que si vous écrivez en privé, soit au Théâtre du Ricochet ou à l'arrondissement Ville-Marie, vous devriez avoir les informations.
On saura où c'est dans chaque région.
Je vous donne un indice, c'est en septembre.
Eh bien, ça m'arrange. Avant de passer en musique, on va parler d'un autre qui est... À chacun son rythme, une rencontre entre une femme et un homme pour qui la solitude devient parfois insoutenable.
C'est un texte de Frédéric Wolff qui a déjà écrit pour nous par le passé. Oui. Ce texte-là est particulier parce qu'on sort de post-pandémie et confinement. Oui. On a quelques textes cette année qui en parlent, ou du moins qui l'évoquent. Celui-ci, entre autres, au sens où on a vécu beaucoup de solitude par ce confinement obligé. Donc, c'est un peu cette rencontre-là auquel on assiste, de deux personnes qui le savent pas nécessairement, mais qui vivent une solitude. Et on va apprendre que pour la femme, ça a été très difficile. Et je ne veux pas vous en dire plus, parce qu'il y a quand même certains punchs. Ça se veut drôle, parce que Frédéric Wolff a tendance, dans les indiscrétions publiques, à provoquer le spectateur avec de l'humour noir. Mais c'est aussi un sujet très important qui a eu cours en 2021.
Bien sûr. Bon, hâte aussi de le rencontrer, de le voir. On va se faire une petite pause musicale et on revient dans un instant parce que le sujet qu'on va aborder après, ça me plaît aussi. Faut que je me le cherche. Donc, je vous en parle dans un instant. On va écouter Eika qui nous chante « De face ».
Voilà que tu m'as
Alors, nous voici revenus avec Frédéric.
Oui.
Alors là, Frédéric, on arrive à un sujet que j'ai hâte aussi d'entendre, surtout pris avec humour, mais qui est très important. Deux femmes qui débattent de la notion d'égalité dans le débat sur l'équité salariale.
Oui, bien intéressant ce sujet-là.
Ah oui, qui va parler à beaucoup de monde.
Oui, j'imagine. L'auteur, Charlotte Poitras, elle-même féministe, s'est posé la question dans ce débat-là, au sens où on se pose souvent la question, on se dit, il faut qu'on ait l'équité salariale encore en 2021, c'est pas encore acquis.
Pas partout, en tout cas.
Non, c'est ça. Et elle questionne surtout la façon dont on veut l'obtenir. Donc, elle questionne un peu le rôle des hommes et des femmes dans le marché du travail. Et elle a une position, en tout cas, un de ses personnages a une position plutôt opposée, au sens où on veut peut-être une égalité plus parentale. On voudrait peut-être que l'homme et la femme, dans la famille, aient une égalité qui est un peu plus paritaire, parce que je suis un peu pléonasme, mais l'idée, c'est de questionner le rôle de l'homme et de la femme dans la famille et sur le marché du travail, et pas nécessairement de demander à un employeur de donner un salaire équivalent à la femme et à l'homme. Donc, c'est très intéressant comme débat. Il y a évidemment les deux positions auxquelles on peut appartenir ou non, mais ça vaut la peine. Oui.
Mais dans ce que vous nous dites, là, il y a aussi le texte de Christiane Desrosiers, là, sur le couple qui débat sur la conciliation travail-famille en temps de pandémie.
Exact. C'est un peu
qui va
genre,
travailler, qui reste à la maison.
Exactement. Dans ce cas-ci, Christiane Desrosiers fait mention, bon, là, c'est un couple qui, justement, se retrouve en plein confinement, où l'homme, lui, part sa petite entreprise et s'est retrouvé en pleine pandémie avec sa petite entreprise à gérer, et pour éviter la faillite, doit travailler d'arrache-pied pour que son entreprise survive. Donc, inévitablement, c'est la femme qui reste à la maison avec les enfants. Les enfants qui, on se souvient, étaient au premier confinement à la maison, confinée aussi, souvent à l'école via Zoom, elle-même en télétravail. Donc, le thème de la charge mentale était très présent lors de la pandémie, parce que c'est beaucoup des femmes qui sont restées à la maison avec les enfants. Donc, c'est pour ça que ce sujet-là aussi nous parlait en 2021.
Ben oui. Et on a là notre technicien et chroniqueur Jean-Sébastien Laliberté, qui, lui, a une femme et des enfants. Et...
Oui.
Et c'est elle qui est restée à la maison.
Ah, ben voilà.
Mais pour le deuxième, pour le premier, elle a eu la gentillesse de partager le congé parental avec moi. 5 mois à la maison, ça change beaucoup la vision de la parentalité. Et plus de pères devraient le faire, mais pour le deuxième, vu que je savais ce qui m'attendait, ben je lui ai laissé le temps de se remettre.
Ouais.
Après, on arrive au mémorial. Alors, un couple se questionne sur la fonction et l'omniprésence des mémoriaux dans l'espace public.
Oui,
c'est-à-dire, expliquez-moi ça un peu.
Très original le sujet, le dit Bugeaud-Henry, qui elle-même étant comédienne et auteure, mais elle aussi, elle travaille aussi, je crois, dans le milieu de la mort, mais du moins de la sépulture. Donc, elle s'y connaît un peu dans le sujet. Le premier sujet, en fait, de la pièce, c'est les mémoriaux, les vélos blancs qu'on retrouve souvent sur le coin des rues. Donc, le couple se questionne un peu sur l'omniprésence de ces vélos blancs-là, au sens où ça rappelle la mort de quelqu'un. Oui, c'est important, ne serait-ce que pour se rappeler les choses, mais est-ce que c'est aussi pas un peu morbide de les avoir un peu partout? Donc, il y a ces deux positions-là un peu qui s'affrontent. Est-ce qu'on devrait les retrouver dans l'espace public toujours et de plus en plus, ou on devrait plutôt le voir avec parcimonie? Donc, c'est encore fait avec humour, mais le sujet est très original.
Mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Alors, par contre, un autre sujet où là, j'ai un petit peu plus de mal à y voir de l'humour, mais qui sait, après, bien écrit, c'est la rencontre entre deux femmes qui met en lumière les noms de femmes assassinées ou parfois oubliées.
Vous avez raison. Celui-ci, c'est plus difficile de le voir avec légèreté, d'autant plus qu'en 2021, c'est un sujet qui est encore terriblement d'actualité.
Ah oui.
La légèreté dans le sujet vient un peu d'un des personnages qui est un peu clownesque, mais ça efface pas du tout le sérieux de ce sujet-là, au sens où je peux pas trop vous dévoiler un peu comment la trame narrative de cette pièce-là, mais il faut savoir qu'on va entendre des noms de femmes réelles qui ont été assassinées au Canada par féminicide, et sans trop dévoiler la poche de la pièce, on va les entendre et c'est important de les entendre pour justement ne pas les oublier.
Alors, en tout cas, ça se passe le dimanche. C'est le dimanche, hein, c'est ça? Ça se passe trois fois en août et en septembre.
Exact. Je pourrais vous donner quelques indices. La première est ce soir. Donc, ce soir, tout près du métro Iberville. Vous pourrez regarder sur Google le parc, les parcs les plus proches.
Oui.
Mais je peux pas vous en dire plus. Ça se passe avant la tombée du soleil, évidemment. La deuxième, demain également, tout près du métro de l'Église.
Verdun.
Peut-être, je ne sais pas. Et il y en a un autre le 27 août, tout près du métro Côte-des-Neiges. Ensuite, ça va se passer évidemment les samedis en après-midi au mois de septembre. Donc, il y en aura à Ville-Marie, il y en aura à Pierrefonds-Roxboro. Voilà.
Alors maintenant, voyager dans les quartiers précisés. Merci beaucoup, Frédéric. Parlons un petit peu, dans le temps qui nous reste, du Théâtre du Ricochet. Donc, que vous avez créé tous les deux avec Sabrina Johnson.
Oui.
Et vous avez une formation en comédia dell'art?
Oui.
C'est pas...
producteur, mais beaucoup en comédia dell'art. Oui, j'ai fait mes études en Italie, à Naples et à Venise. Et j'ai beaucoup étudié l'acteur comique italien masqué.
C'est drôle parce que, excusez-moi, je vais vous couper. Hein, je vais vous dire, Frédéric, quand je vous entends parler... vous avez une voix posée qui explique bien les choses. Et pour moi, la comédia dell'art, c'est vraiment la folie sur scène, la gymnastique du corps, les trucs. Et quand j'entends votre voix, j'ai du mal à lier les deux. Les
oui,
deux.
Tout à fait. Ben là, je vous parle en tant que metteur en scène. J'ai aussi une maîtrise dans le théâtre in situ. Mais effectivement, vous aviez raison, la comédia dell'art, c'est un peu ça. On m'a approché pour le Théâtre du Ricochet un peu avec cette expertise-là, mais on s'entend que c'est pas du tout la comédia dell'art que je fais avec les indiscrétions publiques. Par contre, il y a certains petits détails dans la mise en scène, au sens où le jeu physique est important, ne serait-ce que pour ceux qui n'entendent pas le texte ou qui sont pas assez curieux pour s'approcher, ils peuvent voir un peu avec la gestuelle et le jeu physique ce qui se passe, ou du moins quelques enjeux. La projection vocale aussi, qui est très important avec le théâtre masqué, ben ça se passe aussi dans les indiscrétions publiques. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne projection pour que tout le monde entende un peu ce qui se passe quand on est dans un parc. Ça peut sembler un peu rébarbatif au départ, parce que c'est une très grande projection, mais on s'y habitue rapidement puis on comprend la convention. Le Théâtre du Ricochet, c'est né de cette rencontre-là entre Sabrina Johnson et moi. On avait déjà travaillé ensemble sur un projet justement de comédia dell'art dans les parcs. Elle était à la conception costume et elle avait participé en Irlande, à Dublin, à un projet semblable, c'est-à-dire des courtes pièces sur des bancs de parc. Il n'y avait pas la dimension sociopolitique. Nous, on l'a ajouté dans le concept. Mais c'est ça, elle a importé le concept au Québec et on a décidé d'en faire un en 2015, de tester, voir si ça fonctionnait bien. Et on a eu une très bonne réponse. Donc, depuis 7 ans maintenant, on fait des installations publiques à chaque été dans les parcs.
Mais en tout cas, c'est une belle idée. C'est une belle association, puis c'est une belle idée. Et pour en avoir vu, je trouve ça assez génial. Et c'est vrai que les personnages, hors leur discours, bougent, se lèvent, se tournent. Donc, il y a aussi une gestuelle qui est faite avec ça, quoi. C'est une vraie scène à jouer.
C'est important parce qu'il ne faut pas faire de la télé qu'on fait. Donc, pour moi, c'est important, le théâtre, de l'incarner dans le corps aussi.
Oui.
Puis quand on est dehors, il y a beaucoup de distractions. Hein. Il y a les voitures qui passent, les oiseaux qui gazouillent.
Oui.
Donc, il faut qu'on puisse être happé par le jeu des comédiens. Donc, moi, je trouve ça important.
Ah oui, non, mais tout à fait. Eh bien, c'est formidable, bravo.
Merci.
Félicitations pour tout ça, en tout cas.
C'est bien gentil, on va vous y voir.
Bien sûr, vous pouvez compter. Moi, quand je l'avais vu, c'était au Parc La Fontaine.
Ah, malheureusement, on ne peut pas y aller cette année parce qu'ils refont le théâtre de Verdure, mais je vais vite, la Ville-Marie, c'est un bon endroit.
Mais oui. Ben maintenant que j'ai déménagé là-bas, je vais y aller. Mais j'avais aimé aussi au Parc La Fontaine, j'avais trouvé ça super intéressant.
Oui, c'était un très beau parc.
C'était passionnant parce que en plus c'est vraiment pour nous quoi l'impro de voir ça, d'être à côté, de de l'entourer, parce qu'à ce moment-là, on pouvait faire un petit rassemblement autour des gens qui jouaient. Donc...
Oui. Ça va se pouvoir encore, mais avec un peu de distanciation, évidemment.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Frédéric Genry. Bonne continuation au Théâtre du Ricochet et aux indiscrétions publiques. Et surtout, sortez, il fait beau, allez dans les parcs, allez dans les secteurs autour de chez vous, allez écouter tout ça. Bravo pour ça.
Merci beaucoup, Alessara.
Merci.
Au revoir.
Alors, on part en musique. Et on part en musique avec Claudel qui nous chante « Ciel diamant ».
La lune nous inquiète. Je vogue sur l'écorce de nos corps qui sont ternis racines dans le ciel diamant. À l'aube des éclats, les saisons s'entremêlent. Du boulot, le ciel est brume de nos silences. L'aube à l'horizon, nos corps se consolent sous la rosée.
Alors, Jean-Sébastien, la liberté, qu'est-ce qu'on fait? On pleure? Non, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là. Eh bien, merci beaucoup à Frédéric Genry. Et puis, si vous ne connaissez pas Indiscrétion publique, allez-y, sortez dans les parcs et profitez-en parce que c'est vraiment chouette. Merci beaucoup à toi, Jean-Sébastien, la liberté, puis de nous avoir appris encore d'autres horreurs. J'en reviens pas de ce que les gens sont capables de faire.
Revenez la semaine prochaine, il y en aura encore plus.
L'humanité, mon Dieu, avec ses bons et ses moins bons côtés. Merci à vous toutes et tous. Donc, on se retrouve demain, d'accord? Allez, à demain.